Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
passées de quelques minutes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Notre invité aujourd'hui, nous avons de la chance de l'avoir devant notre micro, il est politologue, directeur du département Opinion de l'Institut IFOP, institut créé en 1938, me semble-t-il. Je donne tout de suite son nom, c'est Jérôme Fourquet qui est avec nous. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Et on a beaucoup entendu parler de vous. Alors, on vous voit à la télévision, notamment dans l'émission
C'est dans l'air.
Et votre dernière publication qui date de l'an dernier, qui a obtenu d'ailleurs le prix du livre politique en 2019, s'intitule « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée ». D'ailleurs, très récemment, j'ai entendu Jean-Pierre Chevènement qui faisait référence à votre ouvrage en disant que
c'est possible,
qu'il cautionnait complètement ce que vous avanciez. Alors, « L'archipel français », cet ouvrage dont il va être question aujourd'hui, montre que vous connaissez bien la France et les Français et que vous avez vu changer la France, notamment dans ses pratiques. Alors, déclin de la religion catholique jusqu'à l'arrivée des nouveaux prénoms, des prénoms issus d'autres cultures, notamment disparition du communisme, que vous appelez l'Église rouge dans votre ouvrage, l'essor du véganisme, l'essor aussi de l'individualisme qui a pris le pas vraisemblablement sur le collectif, les élites qui ont progressivement fait sécession. Enfin, j'ai cru comprendre que la France n'était plus le bloc qu'elle était auparavant. La France a-t-elle été un jour un bloc ?
Alors bonjour, on insiste avec mon co-auteur Sylvain Montornac dans ce livre sur les phénomènes et processus de fragmentation qui ont travaillé en profondeur la société française depuis 4 ou 5 décennies pour aboutir à cet état d'archipel, de juxtaposition d'îles et d'îlots auxquels nous avons le sentiment d'assister et de participer aujourd'hui. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de communier dans le souvenir d'un âge d'or révolu où la France aurait été pleinement homogène, totalement une et indivisible. Il y a toujours eu des différences, notamment régionales, très marquées. Mais quand on s'y penche un petit peu, on constate que, quelles que soient les régions, au bout du bout, en gros depuis la Révolution française jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80, la société française a fonctionné sur un mode assez binaire, sur un affrontement, une tension entre deux blocs constitutifs qui étaient d'un côté la matrice catholique, avec la France catholique, et puis de l'autre, une France républicaine et laïque. Bien évidemment, il y avait des nuances régionales, on pourrait trouver des sous-catégories, mais c'était cette architecture-là qui donnait une certaine cohérence à la société française. Et c'est ça qui s'est disloqué au cours des dernières décennies, pas forcément de manière concomitante. Une dislocation a été suivie par une autre, avec ce que vous rappeliez en introduction, quand on gratte quand même au fond des choses, un processus qui conditionne beaucoup d'autres, qui est la montée en puissance de l'individualisme et l'affranchissement de l'individu par rapport à toute une série de structures ou de cadres d'appartenance traditionnels, la famille, la religion, le parti, le syndicat, et un développement de cette sphère individuelle qui a mis à bas tous les éléments qui structuraient, enfin, beaucoup d'éléments qui structuraient, qui donnaient sa cohérence à la société française.
Alors ça aussi, Éric Zemmour, au niveau de la, des structures traditionnelles qui ont volé en éclats, vous êtes un peu sur la même ligne.
Oui, alors
vous partagez, vous faites les mêmes constats.
Oui, alors il y a d'autres personnes qui la montée en puissance de l'individualisme, on n'en revendique pas la paternité et la dislocation de ces matrices traditionnelles, enfin ces structures d'appartenance collective, mais beaucoup d'autres personnes que nous les ont mesurées. Ce que nous avons modestement essayé de faire, c'était de prendre un petit peu à différentes échelles et à différents niveaux la mesure de toutes ces transformations dont on n'a pas forcément conscience, et de rassembler tout ça pour donner une image et un paysage global, en fait.
Alors, une France, donc, dont la matrice catholique est devenue peau de chagrin. D'ici 30 ans, écrivez-vous, page 28, la France ne comptera plus un prêtre catholique.
Alors, c'est une hypothèse qu'on peut faire, une hypothèse statistique, si on s'appuie, pas sur les chiffres de l'IFOP, mais sur les chiffres de l'Église elle-même, qui publie régulièrement le nombre de prêtres en activité en France. Et donc, on est passé de 20 000 prêtres diocésains en activité dans notre pays à la fin des années 90 à moins de 12 000 il y a 2 ou 3 ans. Et donc, c'est un effondrement de 40% de cette population. Et quand vous dressez la courbe de cette évolution, si on poursuit la courbe, exercice que les sondeurs aiment bien faire, eh bien, on peut acter le fait que d'ici 25 ou 30 ans, potentiellement, il n'y aurait plus de prêtres catholiques en France. Alors, sans doute que ce scénario le plus sombre ne se produira pas exactement, puisque on maintiendra une population de prêtres en activité en France en faisant appel notamment à des prêtres qui viennent des pays du sud de la planète. Et donc ce serait un espèce de retournement historique, un espèce de clin d'œil dont l'histoire a le secret, puisque la France, au début du XXe siècle, fille aînée de l'Église, fournissait à elle seule 70% des missionnaires que Rome envoyait partout sur la planète porter la bonne parole. Et donc il y a une espèce de retour sur investissement tardif pour maintenir sans doute un stock de prêtres. Ces chiffres, comme d'autres, on donne les chiffres de la pratique religieuse catholique aujourd'hui, sont importants parce que là aussi, nous ne sommes pas les premiers à parler de déchristianisation, loin s'en faut, mais avec ces chiffres, on touche du doigt l'ampleur du décrochage. Hein, c'est-à-dire quand on dit potentiellement dans 20 ans, il n'y a plus de prêtres en France, ou quand on explique, là cette fois en se basant sur nos chiffres de l'IFOP, qu'en 1961, quand l'IFOP interroge un échantillon fameux, le fameux échantillon représentatif de la population, vous avez 35% de catholiques pratiquants, c'est-à-dire des gens qui vont à la messe tous les dimanches. Et quand on repose la question en 2013, on est tombé à 5%. On voit l'ampleur de ce phénomène de décrochage. Bien évidemment, et on en a vu encore l'illustration il y a quelques semaines, les catholiques n'ont pas disparu de la surface du pays, ils existent encore. Mais ils ne sont plus à 5%. Qu'une des îles ou un des îlots de l'archipel, alors qu'au début des années 60, ils en étaient encore un des deux piliers constitutifs et une des deux forces agissantes et irriguant la société française.
Alors Jérôme Fourquet, si vous le voulez bien, on marque une première pause musicale et puis on se retrouve pour poursuivre notre échange. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Archipel français, sous-titré « Naissance d'une nation multiple et divisée ». Je crois savoir que le sous-titre ne vous séduit pas plus que cela, c'est votre éditeur qui vraisemblablement l'a accolé au titre.
On l'a accolé, alors c'était d'un commun accord, mais bon, il a le mérite de préciser un peu les choses.
Et puis cette grande question, où allons-nous, la bande rouge qui entoure votre ouvrage, disponible au Seuil. Nous allons vers une pause musicale et on se retrouve juste après. I can't believe I'm still around, I wait for you, deaf and dumb, it's all in vain. Oh, 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 I've gotten numb to all your words. I know they're not what I deserve, and who's to blame? Oh, oh, swimming in wonder, calling for thunder. Wish I could float and wake up before the sound finds me again. Drag me, drag me, drag me. Me to the other side. Love me, hurry. The tide is high. I'm a deep sea diver all the night. Drag me, drag me, drag me to the other side. Love me, hurry. The moon is bright. I'm a deep sea diver out of sight. I waved my hand a million times. In the dark, I saw a spark. I heard my name, oh, oh. I've gotten numb to lonely days. I've had my breath, it's all the same. It only makes me blue again. Swimming in wonder, calling for thunder. Wish I could float and wake up before the sound finds me again. Drag me to the other side. Love me, hurry. The tide is high. I'm a deep sea diver all the night. Drag me, drag me, drag me to the other side. Love me, hurry. The moon is bright. Jérôme Fourquet est notre invité pour son essai, L'archipel français. C'est un livre politique ? C'est un essai politique ? Comment qualifier cet ouvrage ?
Alors,
est-ce que c'est politique quand on,
oui, en partie,
s'intéresse aux chiffres aux...
Oui, bien sûr, bien sûr. La vocation initiale, qui est restée entière avec mon co-auteur, on s'est lancé dans cette aventure après l'élection présidentielle de 2017 et les législatives qui ont suivi. Et donc, nous, notre marque de fabrique à l'IFOP, on est plutôt porté sur la chose électorale, la chose politique. Donc, c'était ça le point de départ. Mais ensuite, ce projet s'est transformé en... l'ambition un peu démesurée finalement quand on sait, quand on regarde derrière nous le travail qui a été fourni, de dresser un constat, un panorama de la société française en prenant comme hypothèse que les transformations électorales et politiques auxquelles on a assisté en 2017 et puis qui sont encore devant nous avec les municipales et on a eu les élections européennes, eh bien, ne sont qu'une mise en conformité tardive du paysage électoral avec l'état de la société française au plan géographique, économique, culturel et démographique. Et donc, si la clé d'entrée, alors c'est la dernière partie du livre, est plus spécifiquement politique et électorale, en fait, on revient sur toute une série d'évolutions, encore une fois, démographiques, culturelles, philosophiques, religieuses, qui ont travaillé notre société en profondeur. Donc, c'est pas un livre de sciences politiques au sens propre, c'est plutôt une photographie, une analyse sur l'état de la société française aujourd'hui et sur les transformations qu'elle a subies depuis 30, 40 ou 50 ans.
Alors vous l'avez dit au début de notre échange, on a eu pendant longtemps des affrontements assez duels, la gauche politiquement, la gauche, la droite, un vieux fond catholique, ouais, en face d'une France républicaine et laïcarde. Ouais. Enfin, je dis laïcarde, ouais, c'est peut-être un peu péjoratif. Mais
non, mais c'était comme ça que c'était vécu.
Et aujourd'hui, effectivement, vous expliquez que la France est beaucoup plus complexe que cela face à la disparition de certaines traditions, de certaines matrices, ouais, fondatrices de l'unité de notre pays. Parlons le cas, par exemple, les musulmans. Alors, la communauté musulmane, là aussi, c'est très intéressant. Il faut distinguer l'immigration européenne de l'immigration des pays du nord de l'Afrique. Vous revenez sur ceux qui se sont très rapidement intégrés, notamment en donnant des prénoms français à leurs enfants. Il y a l'exemple absolument époustouflant des Polonais, immigration polonaise. Donc là, c'est plutôt lendemain de la Première Guerre mondiale.
Dans le Pas-de-Calais, notamment. Oui,
ça s'immigre très très vite et ils arrivent en très grand nombre. Hein. C'est 500 000 en très peu de temps, dont 300 000 dans le Pas-de-Calais. Je peux vous demander d'en parler un petit peu, Jérôme Fourquet ?
Oui, alors, un des fils rouges de cet ouvrage, et on voit qu'on sort des questions strictement électorales et politiques, a été l'étude des prénoms qui sont donnés aux enfants qui naissent. On s'est appuyé pour ce faire sur un gigantesque fichier que l'INSEE met à disposition sur son site, mais qui est un fichier brut. Hein, il n'y a aucune analyse et encore moins aucune classification qui est effectuée. Et donc, sont recensés dedans les 84 millions de naissances que la France a enregistré depuis 1900, année par année, département par département. Et pour ceux que ça intéresse, on verra dans le livre que cette étude des prénoms est très riche d'enseignements pour illustrer un certain nombre de phénomènes démographiques ou culturels qui se sont produits dans notre pays. Et on s'en sert notamment pour dater et mesurer les phénomènes migratoires, puisque beaucoup des vagues migratoires qui sont arrivées en France ont donné lieu, dans un premier temps, au développement du choix de prénoms qui rattachaient ces enfants au pays d'origine des parents. Ça a été le cas dans le Pas-de-Calais, où on voit apparaître à l'état civil, dans la région minière où très nombreux Polonais étaient venus travailler, eh bien, dès 1919, une certaine proportion de prénoms polonais parmi les nouveau-nés de ce département. Et donc on date comme ça l'arrivée des Polonais à l'aune des prénoms qui sont enregistrés. Et on va constater que en l'espace de 25 ans, c'est-à-dire à peu près une génération, 25-30 ans, ça nous emmène au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces prénoms polonais disparaissent de l'état civil dans le Pas-de-Calais. C'est pas que ces familles aient quitté la région, c'est que au rythme de l'assimilation, des mariages mixtes, eh bien, ces familles se sont fondues quelque part dans le paysage démographique et dans le paysage culturel. Et un des marqueurs de cette fusion ou de cette assimilation a été la disparition des prénoms polonais. Ça ne s'est pas fait forcément dans la joie et la bonne humeur tout le temps. On a une image reconstruite un peu idyllique des choses. Quand on se penche sur les travaux historiques qui ont été menés, on voit que l'intégration était très dure, qu'il y avait des conflits sur le lieu de travail, dans les corons, entre ouvriers de souche et puis ouvriers polonais. Mais en l'espace de 25 ou 30 ans, la fusion a prise et ces prénoms ont disparu. C'était le cas aussi de prénoms portugais qui apparaissent dans les registres de l'état civil et de l'INSEE dans les années 60-70, un peu partout en France, quand des centaines de milliers de familles portugaises gagnent notre territoire et notre pays pour s'y installer et pour travailler. Donc dans un premier temps, assez classiquement, ce sont des prénoms portugais qui sont donnés. Et puis, le temps faisant, ces prénoms sont amenés à disparaître. Cette mécanique-là ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus dans le cas de l'immigration qui vient du Maghreb ou des pays d'Afrique subsaharienne, puisque nous avons des choix réitérés de la part de ces familles, mais génération après génération, en faveur de ce type de prénom. Et donc, pour illustrer le phénomène, nous avons quantifié le pourcentage de naissances de garçons, c'est plus facile à faire sur les garçons, qui portent des prénoms arabo-musulmans au fil du temps, parmi l'ensemble des naissances dans notre pays. Et de 1900 à 1950, c'est 0% des naissances. En 1960, début de l'immigration de masse, pour travailler dans les usines ou là encore dans les mines, c'est 1% des naissances de petits garçons qui font l'objet du choix de prénoms arabo-musulmans. On est aujourd'hui à 19% des naissances sur l'ensemble du territoire national. Et donc ce phénomène, il a commencé il y a une cinquantaine d'années, 60 ans bientôt, et on voit qu'il ne se dément pas et qu'il n'y a pas pour l'heure d'abandon des prénoms d'origine de la part des familles, même si nous sommes parfois à la troisième ou à la quatrième génération. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas intégration. On cite dans le livre, parce qu'on savait que ce sujet ferait polémique, le cas du policier français qui est mort devant Charlie Hebdo, qui s'appelait Ahmed Merabet, ou des parachutistes français que Mohamed Merah avait abattu à Toulouse en 2012 avant de s'en prendre à une école juive, et qui eux aussi portaient des prénoms maghrébins puisqu'ils étaient issus de l'immigration. Donc on peut totalement appartenir à la nation française, et ces hommes l'ont montré plus qu'aucun autre, tout en portant ce type de prénom. Mais c'est néanmoins, sur l'histoire de longue durée, une rupture et un signe de l'existence d'îles et d'îlots qui sont moins homogènes qu'ils ne l'ont été par le passé en France.
Alors, ce n'est pas forcément un repli identitaire lié au choix du prénom que l'on donne à l'enfant.
Alors, on a différentes façons de l'expliquer. On peut avoir une fidélité tout à fait compréhensible à des origines familiales ou religieuses qu'on retrouve dans d'autres milieux. Et puis, on peut aussi y voir, pour une partie d'entre eux, parce que c'est des volumes de population qui sont importants, 20% des naissances, ça fait 150 000 enfants qui naissent par an, donc c'est beaucoup. Et donc, il n'y a pas une explication unique pour ces 150 000 choix de prénoms. On peut aussi y voir, chez certains, ce que les sociologues appellent, sur d'autres sujets, un retournement de stigmate, c'est-à-dire qu'il y a assignation à résidence identitaire de la part de la société d'accueil, avec des fortes discriminations, et donc par réaction, on peut avoir un certain nombre de ces familles qui décident, entre guillemets, de jouer ce jeu et de dire, nous, très bien, on revendique l'identité et la culture à laquelle vous nous ramenez sans cesse, et quelque part en pied de nez, on décide de donner ces prénoms. Ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est le fait que ces choix de prénoms soient très massif, il soit manifestement la norme dans ces milieux. Hein, puisque sinon, on n'arriverait pas à 20% de naissances si toute une partie de la population issue de l'immigration fait le choix d'autres prénoms. Ça existe, mais c'est des effectifs qui sont minoritaires. Et ça nous a interpellés parce que d'autres enquêtes que celles de l'IFOP ont montré, des enquêtes sociologiques, que porter ces prénoms, aujourd'hui encore en France, expose les porteurs de ces prénoms à très sérieux risques de discrimination pour trouver un emploi ou pour trouver un logement, par exemple. On peut faire l'hypothèse que les familles qui donnent ces prénoms, elles sont relativement jeunes, ces familles, elles ont fait elles-mêmes l'expérience de ces discriminations quand elles ont cherché peut-être un logement ou quand elles ont envoyé leur CV dans des entreprises. Et pour autant, si ce n'est elles, ça peut être des membres de leur famille ou de leur entourage proche. Et au moment de choisir le prénom pour leur propre enfant, eh bien, il y a un choix réitéré du choix de ces prénoms. Alors, ce n'est pas propre à la population issue de l'immigration arabo-musulmane. On voit un regain des prénoms corses en Corse, le maintien de prénoms bretons en Bretagne. On a, sur des effectifs beaucoup plus restreints, un engouement aussi pour des prénoms bibliques et hébraïques dans une partie de la communauté juive française. Et quelque part, on serait tenté de dire qu'au sein de l'archipel français, chaque île et îlot hisse chaque matin les couleurs, et que les couleurs qui sont hissées, le drapeau qui est hissé, eh bien, c'est les prénoms qui sont donnés aux enfants.
Alors, on dit aussi parfois que une certaine partie de la population française d'origine maghrébine est dans le dépit lié, par exemple, aux deux guerres du Golfe et aussi à la situation, la création de l'État d'Israël. On explique aussi que les populations qui pratiquent un islam modéré ou moins modéré, hein, parce que ça aussi, c'est toujours pareil, il faut être très, très prudent là-dessus, mais on pourrait peut-être en parler justement aussi de l'islam. Vous y croyez à ce dépit des populations d'origine maghrébine en France ou en Europe qui éventuellement, justement, par des choix du prénom, par peut-être aussi une pratique plus forte de la religion, s'impose pour exister?
Alors un dépit, je ne sais pas si c'est ce terme, premièrement. Deuxièmement, ces populations sont très diverses en termes d'origine.
Oui, parce qu'on peut venir de l'Afrique noire et être animiste ou catholique, chrétien, évangélique.
Même musulman du Sahel ou du Maghreb, de Turquie ou du Maghreb. De Turquie, est-ce qu'on est turc ou est-ce qu'on est kurde? Du Maghreb, est-ce qu'on est tunisien, marocain, algérien? Et si, par exemple, on est d'origine algérienne, est-ce qu'on est kabyle ou pas kabyle? Donc il y a grande différence sur les origines. Grande différence aussi sur le degré de pratique religieuse. Est-ce qu'on est totalement sécularisé, est-ce qu'on est au contraire assez pratiquant ou pratiquant très rigoriste? Donc il y a des différences qui sont majeures. Donc il y a, à mon avis, il faut faire attention sur ne pas globaliser ou essentialiser cette population. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, nous avons réalisé une enquête pour le magazine Le Point à l'IFOP en septembre dernier, 2019, à l'occasion du 30e anniversaire de l'affaire du foulard de Creil, qui avait déchaîné les passions à l'époque. Et qu'a montré cette enquête? Eh bien, ce que d'autres enquêtes avant avaient déjà montré, c'est que nous avons un regain de religiosité dans toute une partie de cette population issue de l'immigration et d'origine musulmane. Donc, toute cette population, loin s'en faut, n'est pas pratiquante, mais il y a davantage de marqueurs religieux qu'il n'y avait il y a 30 ans, quand l'IFOP avait lancé une enquête pionnière à l'occasion de cette affaire du foulard, du voile de Creil. Si l'on regarde en termes de respect des interdits religieux sur l'alcool, sur le halal, sur la pratique de la prière le vendredi, sur, pour les femmes, le port du voile, tous ces indicateurs sont à la hausse et parfois très sensiblement à la hausse. Ce qui crée du trouble à deux titres dans la société française. D'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que sur la même période, des années 80 aux années 2020, le chemin de la société française, c'est celui de la sortie de la religion, collectivement. On était déjà plus très catholiques pratiquants, certains ne l'étaient plus du tout depuis très longtemps, mais ceux qui l'étaient encore, les parts de marché, si vous me permettez l'expression, se sont considérablement comprimées. Donc on a une société qui quitte progressivement, mais quand même assez rapidement, la vieille matrice religieuse, et on en voit des illustrations comme par exemple l'échec de la mobilisation contre la PMA. On voit bien que c'est le dernier baroud d'honneur d'un catholicisme un peu conservateur, mais qui existe encore, mais qui n'a plus la capacité d'entraînement. Et donc, au moment où la société dans sa globalité sort plutôt et s'éloigne de ses racines religieuses, le fait qu'une de ses composantes, elle, fasse le chemin inverse, est totalement incompréhensible pour beaucoup de nos compatriotes et de nos concitoyens, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, et même le fait de croire à un dieu, à une transcendance, semble suspect à des Français qui, pour beaucoup, depuis plusieurs générations, ont cessé de le faire. Et puis, le deuxième élément de trouble, c'est que non seulement il y a un retour vers le religieux d'une partie de cette population, mais en même temps, c'est vers une religion qui est très culturellement méconnu et qui nous est très éloigné à nous, Français, puisque la présence de l'islam en terre de France est quand même très, très récente. Donc, c'est ces deux éléments-là qui créent du trouble et de l'interrogation.
Et notamment, comme vous l'écrivez, tout le monde n'a pas été Charlie.
Alors,
ça aussi, ça.
Alors, si on essaie de poursuivre l'analyse, et encore une fois, sur ces populations issues de l'immigration qui sont diverses, elles sont plus ou moins religieuses, certains sont manifestement engagés, comme le reste de la société française, dans un processus de sortie de la religion, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on a vu qu'au moment de périodes très tendues dans la société française, les mobilisations en soutien ou en commémoration de la rédaction de Charlie, eh bien, une partie de la population issue de l'immigration s'est trouvée assez en porte-à-faux ou mal à l'aise, non pas qu'elle approuve majoritairement les actes odieux qui ont été commis, mais elle n'était pas non plus, pour une partie d'entre elles, dans le soutien de militants et sans réserve de la pratique de cette rédaction. Donc on voit bien que là, il y a des tensions. Si on volait un cran plus loin, le fait que nous n'ayons pas mis fin encore à la vague terroriste qui a frappé le pays depuis 2012. Heureusement, le rythme des attentats et le bilan humain est moins lourd ces derniers mois ou dernières années, mais périodiquement, des équipes sont démantelées ou des attentats sont commis. Et nous avons un volume de plus de 1500 condamnés dans nos prisons, plusieurs centaines d'individus qui sont partis au Levant. Et donc, pour atteindre cette masse critique de gens qui ont été prêts à passer le cap et de prendre les armes ou de se préparer à le faire, cela nous indique, en termes d'analyse sociologique, que des dizaines de milliers communient, si je puis dire, dans leur vision du monde. C'est-à-dire que tous ne sont pas passés à l'acte, mais pour que vous ayez la pointe de l'iceberg composée de plusieurs centaines ou milliers d'individus, ça nous dit que dans certains quartiers de nos villes, nous avons une autre culture, une autre idéologie qui s'est structurée. Là encore, il faut être très précis sur les termes, ce n'est pas la règle générale, mais cette réalité existe et il faut la prendre en compte.
En tout cas, je cite, ça sera une petite pause et une conclusion avant la prochaine pause musicale. La société française est devenue de facto une société multiculturelle. Notre pays ne connaîtra plus jamais la situation d'homogénéité ethno-culturelle qui a prévalu jusqu'à la fin des années 70. L'archipel français, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité Jérôme Fourquet, qui est aujourd'hui devant notre micro à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. On se retrouve dans une poignée de minutes après une petite pause musicale.
On trace notre chemin, on part comme si de rien, on est seul.
On casse nos habitudes, on s'habitue à la solitude.
On est sauvage. Sauvage. We are, we are. We all know it's a long way from home. We are.
Jérôme Fourquet, l'archipel français, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Alors j'aimerais qu'on parle de la carte, puisqu'on a parlé pas mal des prénoms. Petit clin d'œil, mais alors, étude très sérieuse, la carte. Alors, c'est la carte des Kevin et des Dylan, c'est un prénom qui a été beaucoup donné de 86 à 96. Hein. Ouais. C'est cela. Et alors, c'est très intéressant, la carte des Kevin et des Dylan, plutôt dans les milieux populaires, avec l'influence de la télévision, des séries.
Des médias de masse américains. Voilà.
Et puis, si, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous plaquez des cartes, et alors là, ça révèle des choses très intéressantes. Je vous laisse la parole, Jérôme Fourquet.
Alors, vous voyez, donc c'est un autre exemple de l'utilité de l'étude des prénoms. On s'est penché sur le cas de cet engouement très massif que notre pays a connu du milieu des années 80 au milieu des années 90. La mode est un peu passée, mais elle demeure encore dans certains milieux, pour les prénoms anglo-saxons. Avec la tête de proue, si je puis dire, de ce phénomène, de ce mouvement, de cette mode qui était le prénom chez les garçons Kevin, qui était le prénom numéro 1 donné en France 7 années de suite. Donc on a, à l'époque, on est déjà 3 ou 4 000 prénoms différents de garçons utilisés chaque année. Donc pour être numéro 1 7 années de suite sur 3 ou 4 000, il fallait que l'engouement et la mode soient très puissantes. Elle l'a été. Et au pic du phénomène, les prénoms anglo-saxons, en 1993, étaient donnés à 13% des garçons qui naissaient en France. Donc c'est 1 sur 7 à 1 sur 8. Ça donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène. Quand on regarde la carte de la répartition de ce pourcentage, on s'aperçoit que ce n'est pas totalement homogène. C'est quand même un phénomène de masse, sinon on n'arrive pas à 13% des naissances. Mais certaines régions étaient beaucoup plus sensibles ou attirées par cette mode que d'autres. Et c'est notamment toute la France industrielle et populaire du Nord-Est. En gros, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace, la Lorraine. Partie de la Franche-Comté également. Et puis une excroissance dans le sud-est du pays. Donc là, c'est intéressant à deux titres. D'une part, parce que des sociologues qui ont travaillé avant nous sur les prénoms avaient bien mis en lumière des effets de mode et comment les prénoms se diffusaient dans les différentes classes sociales. Historiquement, les modes étaient lancées par le haut de la pyramide et puis par espèce d'effet de percolation ou de mimétisme, il arrivait avec quelques années de retard, dans les catégories les plus modestes et les plus populaires. Là, l'engouement pour les prénoms anglo-saxons n'est pas passé par le haut de la pyramide. Il a été surtout l'émanation des milieux populaires qui, quelque part, c'est ça qu'on y voit nous, se sont autonomisés culturellement des modèles dominants. Donc on arrête de regarder ce qui se passe en haut de la pyramide et on va se bricoler, se fabriquer notre propre référentiel. Et on se le fabrique avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire l'influence des médias de masse américains par le cinéma, par la télé, par la musique, par le sport aussi, avec un certain nombre de figures très très populaires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on a, comme on a l'habitude de voir passer des cartes à l'IFOP, eh bien, on s'est dit, mais cette carte, on la connaît, cette carte des prénoms anglo-saxons, et elle ressemble assez à la carte du deuxième tour de la présidentielle, c'est-à-dire à la carte du vote pour le Rassemblement national. Alors on a appris à l'école que corrélation n'était pas raison. Ce n'est pas parce qu'il y a deux cartes qui se superposent pas assez bien qu'il y a un lien statistique entre les deux ou un lien causal. Mais on a poussé un cran plus loin l'analyse, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur le Front National, et on avait remarqué qu'un certain nombre des cadres de ce mouvement porter ce type de prénom. C'est le cas, par exemple, de celui qui a dirigé la liste du Rassemblement National aux dernières élections européennes. Il s'appelle Jordan Bardella. Le maire d'Hénin-Beaumont, la place forte de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, il s'appelle Steve Briouat. Et puis, on peut multiplier les exemples. Alors, tous les porteurs de ces prénoms ne votent pas pour le Front National, bien entendu, et tous les électeurs du Front National ou les cadres ne portent pas ces prénoms. Néanmoins, il y a une certaine zone de recouvrement entre ces deux phénomènes et le lien derrière tout ça, c'est ce que nous on a appelé l'autonomisation culturelle et idéologique des milieux populaires. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse du vote ou du choix des prénoms, mais on pourrait prendre d'autres exemples, on est, alors là aussi, pas de globalisation, il y a des différences selon les régions, selon les histoires personnelles, mais dans des milieux populaires qui aujourd'hui sont dans une position d'opposition frontale au sommet de la société. Et donc, quand le sommet de la société, qu'il s'agisse des éditorialistes, des journalistes, des intellectuels, même des églises, du patronat, enjoignent de ne pas voter pour le Front National, eh bien, justement, c'est ce que beaucoup de ces électeurs font. Quand la mode ou la bien-pensance ou le bon goût pour certains consiste à se méfier ou à se défier d'un certain nombre de prénoms, eh bien, ces prénoms sont quand même très régulièrement utilisés par ces familles. Et donc tout ça nous montre bien l'état d'affrontement ou de sécession qui caractérise cette partie de la société vis-à-vis, ce qu'on pourrait dire, des injonctions qui sont envoyées par le haut.
Alors, donc, il y a les Dylan, les Kevin, les Brandon hein, aussi. Ouais. Donc, il y avait Cindy hein, chez les filles. Ouais. Il y avait Cindy Lauper, je me rappelle, hein, il y a quelques années.
Tout à fait, voilà. Bon. Vous connaissez vos classiques.
Voilà. Ah oui, mais si vous voulez, voilà. Mais en fait, je m'appelle, mon vrai prénom, c'est Kevin, mais je me prénomme Yannick en radio, ouais. c'est plus voilà. Sérieux. Bon, trêve de plaisanterie. Il y a les prénoms rares. Alors, les prénoms rares, là aussi, ça rejoint cet individualisme. C'est une façon... forme de narcissisme, mon enfant ne porte pas un prénom,
tout à fait.
Hein, ça c'est pour se singulariser.
Alors oui, tout à fait, donc encore une fois, une autre utilité de l'analyse des prénoms, c'est d'illustrer la montée en puissance de l'individualisme et le fait qu'une certaine cohésion ou homogénéité de la société a disparu. On constate en effet que de 1900 à 1950, quand on fait le décompte, la France a fonctionné après année avec un stock de prénoms relativement commun et relativement constant. 2000 prénoms, garçons et filles, suffisaient, un portefeuille de 2000 prénoms, à appeler tous les enfants qui naissaient en France. Le fichier de l'INSEE ne remonte pas avant, mais des historiens comme l'équipe de Jacques Dupaquier, par exemple, avaient fait des monographies dans certains territoires et arrivaient à peu près aux mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'on avait un corpus de prénoms qui était figé dans le temps. Alors ça remontait loin, à la Révolution française. Napoléon avait édicté une loi qui précisait les prénoms qui étaient éligibles à l'état civil. Il ne s'était pas embêté, il avait dit c'est les prénoms du calendrier. Et donc, comme on avait une société qui était organisée autour de l'État, tout ça était bien respecté. Et donc, de la Révolution française, en gros, en tout cas napoléonienne, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre, on a fonctionné avec le même portefeuille de prénoms. On voit ensuite cette palette s'ouvrir. 3000 prénoms différents au lieu de 2000 dans les années 60, 4 à 5000 dans les années 70, 80, etc., etc. En 1993, le législateur, soumis à de multiples contentieux juridiques dans toutes les mairies de France, avec des familles qui protestent contre le fait qu'on leur ait interdit d'appeler comme elles le souhaitaient leur enfant, le législateur dit « bon, ça ne sert à rien de s'épuiser là-dessus, et donc on va abroger la vieille loi Napoléon et libéraliser totalement le choix des prénoms ». Moralité, on est aujourd'hui à 13 000 prénoms différents utilisés chaque année pour appeler les enfants, alors qu'on était à 2000 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a une autre illustration de la fragmentation de la société française et de la diversité croissante des influences culturelles qui la traversent et qui la parcourent. Ce que ça dit derrière tout cela, c'est que historiquement, on donnait souvent à l'enfant un prénom qui était celui d'un de ses grands-parents pour inscrire l'enfant dans un héritage, dans une lignée, dans une histoire familiale, dans une culture. Aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est la distinction. Il faut se creuser la tête pour trouver le prénom qui va bien et qui permettra à mon enfant de se singulariser. Hein, puisque on recense 13 000 prénoms différents aujourd'hui, sachant que parmi les naissances, il y a 760 000 naissances en France, par an à peu près, ces dernières années, l'INSEE met de côté 50 000 enfants, où là, les statistiques ne s'appliquent pas, puisqu'il les classe dans un espèce de rebut, fourre-tout, en disant ça c'est prénom rare. Alors on était regardé ce qu'était le prénom rare. C'est un prénom pour l'INSEE qui va être donné au mieux deux fois dans l'année en France, sur l'ensemble du territoire. Et donc si on a un garçon ou si on a une fille, comme on est à 760 000 naissances, c'est vous êtes seul avec un autre sur 380 000, 760 000 divisé par deux, à porter ce prénom. Donc là on voit bien que la volonté des familles a été de se singulariser au plus haut point. Alors comment fait-on ? Eh bien, soit on invente de toutes pièces le prénom, soit, ce qui était fait par le passé, on va en chercher un très très ancien, mais le filon commence à s'épuiser, soit on va puiser l'influence dans d'autres régions du monde, soit on en prend un qui existe et puis on le customise, comme on customise des habits ou un véhicule, en rajoutant une lettre,
voilà.
on rajoute un accent, on change une lettre, on en rajoute une, pour encore une fois, le but du jeu, c'est que le prénom soit le plus singulier possible.
Dernière pause musicale à bord de Wagon Livre, dont Jérôme Fourquet est aujourd'hui l'invité. Jérôme Fourquet, analyste politique, directeur du département Opinion à l'IFOP, dont le dernier ouvrage est disponible en librairie aux éditions du Seuil, ouvrage qui a pour titre « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée ». Vous êtes bien sur Radio Nabord de Wagon Livre, votre émission littéraire. On se retrouve juste après une nouvelle et dernière virgule musicale.
Celui qui chante son histoire, un autre histoire au fond de lui. Celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante.
Jérôme Fourquet, on est au terme de l'entretien. Le livre, quand même, revient sur trois dates que vous retenez. 83, on est sous la gauche socialiste. 2005, c'est Chirac. Et 2015, François Hollande, finalement, aussi. Trois dates avec des alors, têtes politiques. Voilà. Alors, 83.
Alors, 83, il y a c'est un moment charnière à deux titres. D'une part, sur le plan strictement politique, économique, c'est le tournant de la rigueur où, après la politique de relance menée par le gouvernement Mauroy et François Mitterrand, la gauche entame un grand virage
vers le libéralisme.
Vers le libéralisme. Et donc là, à partir de là, on voit apparaître des réalignements électoraux, c'est-à-dire que le lien très fort qui existait entre toute une partie de la classe ouvrière et des employés et la gauche se distend. Et donc le bon vieil ordonnancement gauche-droite commence à turbuler. Il turbule aussi pour une deuxième raison en 83. C'est parce que cette année-là, comme parfois en histoire, vous avez des condensés de choses qui se produisent la même année. Et cette année-là, nous avons la marche des beurs, les grèves dans l'automobile, plus un certain nombre de faits divers qui donne une visibilité tout à fait inédite à la population issue de l'immigration, qu'elle soit du travail dans les usines ou qu'elle soit plus jeune en études ou à la recherche d'un emploi avec cette marge des beurs. Et donc 83, c'est aussi l'année où la société française, en tout cas pour les gens qui n'habitaient pas dans les quartiers où étaient arrivées ces populations immigrées, prend conscience de la réalité de ce phénomène migratoire et aussi du fait que cette population manifestement n'a pas vocation à repartir comme ça avait été plus ou moins sous-entendu ou laissé à penser. Et la conséquence de tout cela, électoralement, c'est que 83, les premières percées locales du Front National, à Dreux, à Aulnay-sous-Bois.
Et les européennes de 84.
Et les européennes de 84.
Presque 10%, je crois.
Ouais, presque 10%. Et à l'époque, on se dit, est-ce que c'est un feu de paille comme le mouvement Poujade? En fait, c'était une réaction à cette situation nouvelle.
Donc 83, touche pas à mon pote.
Voilà, touche pas à mon pote. Et leur réaction, le vote Front National qui s'installe.
2005, alors 2005, là aussi c'est lié, on demande aux Français leur avis par rapport à l'adhésion ou pas, enfin au traité constitutionnel européen, et là il y a un rejet alors, assez fort, 55%.
Alors là aussi,
non.
2005, il y a deux événements importants, il y a chronologiquement celui que vous soulignez, ce référendum qui... quelque part le match retour du référendum de Maastricht de 1992, où cette fois, on n'a pas une victoire courte du oui, à l'époque c'était 51 ou 52 contre 48, c'est une victoire assez large du camp du non, à 55%, avec une carte électorale qui apparaît, qui est totalement inédite, enfin qui ressemble à celle de 92 de manière plus accentuée. Quand je dis inédite, c'est qu'on ne retrouve plus la gauche et la droite, il y a une France du oui, une France du non, les vieilles régions ne sont plus organisées sur zone déchristianisée versus zone encore un peu catholique, c'est la distance à la grande ville. Les grands centres urbains ont voté pour le oui. Plus on s'en éloigne, plus on vote pour le non. Plus la population est populaire, plus le non a été important. Avec une ligne de faille qui fracasse la droite, mais surtout la gauche. On se souvient des tensions très fortes au sein du Parti socialiste, avec un Parti socialiste qui lui-même est coupé en deux. Donc on voit bien que là, après la question de l'immigration, on a la question de la mondialisation et de l'intégration européenne, qui ne vient pas s'encastrer pleinement dans le vieil ordonnancement gauche-droite. C'est autre chose. Et donc notre vieux système se met de nouveau à occulter notre vieux système électoral et à partir dans le décor. Ça, c'est le mois de mai.
Et puis novembre, je crois.
Et puis novembre-décembre, les émeutes de banlieue, après la mort accidentelle de deux jeunes qui essayaient d'échapper à un contrôle de police, deux jeunes de banlieue. Les banlieues françaises s'embrasent.
État d'urgence
pendant trois semaines. Et on sort très clairement du périmètre francilien, puisque quasiment toutes les régions françaises vont être concernées à un titre ou à un autre. Et donc là aussi, c'est un choc immense dans le pays.
Même à Vesoul, j'ai vu qu'il y avait eu une voiture.
Voilà. Mais on a eu des petites villes.
Mais voilà, Vesoul, mais, bon, oui, on peut considérer que c'est une petite ville.
Et donc,
ville.
De la même manière qu'en 83, la France prend conscience de l'existence de ces quartiers de relégation et des tensions qui y existent, hein, et du fossé béant qui existe entre toute une partie de cette jeunesse et le reste de la société française. Donc ça, c'est des événements majeurs.
Alors la troisième et dernière date que vous mettez en valeur, c'est 2015, il y a cinq ans, avec le titre « Tout le monde n'a pas été Charlie ». Là encore, on voit qu'il n'y a pas unanimité en France, il n'y a pas de bloc. C'est une France très plurielle, très multiple, avec beaucoup de nuances,
voilà.
Quel que soit l'univers politique, culturel, d'où l'on vient. D'où l'on vient.
Alors, 2015, bien évidemment, c'est la grande vague terroriste qui est initiée dès le début de l'année 2015 avec les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacher de... en région parisienne. Et puis il y a ensuite une autre série d'attaques, puis les attentats massifs au moment du Bataclan en novembre 2015. Mais donc là aussi, la France prend la mesure de l'ampleur des fractures qui la parcourent, avec l'existence de réseaux djihadistes assez puissants pour commettre de tels forfaits. Et puis en janvier, ce qu'on a étudié, ça a été en janvier 2015, notre ambition, enfin, et intuition, c'était d'aller regarder derrière les images ce qui s'était réellement passé en janvier 2015, parce qu'on a le souvenir exact de foule immense qui avait défilé en soutien de la République, en soutien de Charlie. Or, derrière ces images d'unanimisme et de consensus, on s'est aperçu que le degré de mobilisation, ville par ville, n'avait pas été le même. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas été Charlie, selon la formule consacrée. Toute cette France du Nord-Est, dont on a parlé tout à l'heure, où le Front National est maintenant durablement installé, s'est moins mobilisé qu'ailleurs, comme si ses électeurs estimaient que ce n'était pas leur combat ou que ce qui se passait, ils le dénonçaient depuis longtemps et qu'ils ne voulaient pas se joindre à cela. Et puis aussi, manifestement, dans une partie de la population issue de l'immigration, il y avait aussi cette relative distance dont on a parlé tout à l'heure vis-à-vis de cette mobilisation. Et donc derrière cette image consensuelle, en fait, encore une fois, des lignes de faille.
Un grand merci, Jérôme
merci
Fourquet.
À vous.
Bien sûr, tout est dans l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, c'est aux éditions du Seuil. C'est dommage, on n'a pas pu parler d'Emmanuel Todd et de ses, enfin, et des, ou des Gilets jaunes, mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain livre.
Vous l'inviterez peut-être, voilà. Merci à vous.
Merci Jérôme merci Fourquet, merci à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, samedi prochain à 11h. Au revoir et merci.